La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Il y a de quoi rire.
Chaim, Chaim.
Chaim,
Chaim. Très que tout le monde a dit les Chaim.
Je fais les Chaim avec ma sorte de
On va commencer par une histoire. On raconte que lorsque l'Admor HaZaken était en prison, vous savez que l'Admor HaZaken était emprisonné parce qu'il diffusait la Torah et parce qu'il envoyait de l'argent en Eretz Israël pour les Yeshivot. Ah ouais. Et donc il a été emprisonné. Maintenant, vous savez, dans le monde juif, on sait toujours, dans la Torah, on nous a toujours appris, et ça on le voit dans la paracha aussi, que quand un juif il a un problème, il doit savoir qu'il y a le problème tel qu'il apparaît en bas, et il y a le problème tel qu'il provient d'en haut. Et celle-là de Morazaken le sait très bien. Morazaken, il sait qu'ici-bas, le problème, c'est qu'il y a eu un tsar, et qu'il y a eu... un ministre qui a eu un ci, qui a eu un ça, qui a eu une accusation. Bon.
Ah, il a raison, il y a deux D'accord. problèmes.
Mais il sait qu'en vérité, la vraie raison pour laquelle il a été emprisonné, c'est parce que probablement dans le ciel, il y a eu une accusation contre lui. Une accusation. Dans le Morazaken Saint Sadik, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors on raconte à ce propos que justement la Morazaken, il se posait les questions, il se remettait en question pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pourquoi? Comment ça se fait que je suis en prison? Pourquoi ça m'arrive? Et vous savez que l'Admor HaZaken, chaque jour de son emprisonnement, il étudiait, et pas seulement étudiait, il développait, il faisait des commentaires personnellement dans sa cellule, sur un des psaumes. Il étudiait tout évidemment, mais sur un des psaumes.
55.
Et justement, Jacques tout à l'heure, il va nous chanter le Panav et Shalom, parce que le 53e jour de son incarcération, il était en train d'étudier le psaume 55, d'accord? Et il est arrivé au pasouk Padav et Shalom. Le pasouk dans lequel il parle de que mon âme a été rachetée en paix. Mais avant d'arriver à là, Admor HaZaken était une fois, donc il était dans la prison. Et il se posait la question, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Pas qu'est-ce que le tsar me raconte. Ça c'est, bon, c'est un détail. Quelle est la vraie raison? Qu'est-ce que je fais ici? Parce que c'est ça la question que je lui ai posée. Alors, à ce moment-là, il reçoit la visite en prison de deux personnes. De deux de ses maîtres. Il reçoit la visite du Magui de Meserich, qui est son maître.
Ah, il laisse quand même venir.
Attendez. Et du Baal Shem Tov, qui était le maître de son maître. D'ailleurs, il les appelait mon père et mon grand-père. C'est pas son père et son grand-père, mais son père, parce que c'est son maître, le Magui de Meserich. Et le Baal Shem Tov, c'est le maître de son maître, il appelait ça son grand-père. Les deux viennent le voir en prison. Maintenant, ce que je dois vous préciser, c'est que ces deux maîtres n'étaient plus de ce monde.
Ah.
Mais ils sont venus le voir. Et pour vous montrer à quel point c'est sérieux, lorsque des années plus tard, plusieurs siècles plus tard, plusieurs décennies plus tard en tout cas, la prison a été ouverte et qu'on a pu rentrer à la fin des années 80, il y a eu des chassidim qui sont entrés dans la cellule, on les a laissés rentrer, et ils ont pris des photos. Et le rabbi les a questionnés, il leur a dit, est-ce que dans la cellule, trois personnes pouvaient rentrer à l'intérieur?
Ah oui.
Oui. Non. Oui, la réponse était oui. Mais juste de la question du rabbi, on comprend. Ouais, est-ce que trois personnes pouvaient rentrer à l'intérieur? Il n'y a jamais eu trois personnes à l'intérieur. On comprend que le rabbi a compris l'histoire au sens littéral, qu'il y avait littéralement l'Admor HaZaken et la présence de ces deux maîtres qui sont descendus dans ce monde-ci pour venir le voir. Alors évidemment, quand ils sont descendus dans ce menti, il leur a posé la question, il leur a dit pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors ils lui ont répondu, ils lui ont dit parce que il y a une accusation sur toi, parce que tu dévoiles trop la chassidut. Hein? Tu diffuses trop la chassidut et de façon trop dévoilée. Ça veut dire que normalement c'est les secrets de la Torah. Tu ne peux pas les dévoiler comme ça. Toi, la Admor HaZaken, tu fais le Tania, tu fais ci, tu fais ça. Donc tu développes des secrets que tu les mets à la portée de tous. Des secrets que normalement il faut être un initié pour ça. Toi, tu les mets à la portée de tous. Juste pour vous montrer à quel point la Admor HaZaken a donné sa vie pour nous. Alors la Admor HaZaken lui pose la question à ses maîtres. Il leur dit, et si je sors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'arrêter?
Diffuser encore.
Ou est-ce que je dois continuer? Alors ils lui ont dit la chose suivante. Ils lui ont dit, puisque tu as commencé, ne t'arrête pas. Et au contraire, lorsque tu sortiras,
encore.
Tu diras encore plus. Bon, là, il a compris qu'il allait sortir. Ils n'ont pas dit si tu sortiras, ils ont dit lorsque tu sortiras. Mais ça veut dire que pendant plusieurs jours, il était dans le flou.
Mais on peut savoir. Enfin, je ne sais pas si ça, c'est sûr, mais qui pouvait porter ce genre d'accusation?
Dans le ciel. Alors, justement, pour comprendre cette histoire, je vais vous raconter une autre histoire. Vous allez voir comment les deux histoires sont complémentaires. Une autre histoire qui s'est passée lorsque l'Admor HaZaken était élève encore de son maître, le Magid Mezritch. Une fois, le Magid Mezritch convoque ses élèves et il leur dit, écoutez, j'ai une info dans le ciel. Il y a eu un problème qui s'est passé. Il y a eu une parole de Chassidut qui a été écrite sur un papier. Ce papier a été perdu par quelqu'un. Et la feuille sur laquelle ce mot de Chassidut a été écrit a tournoyé dans les airs comme une feuille. Oui, il y a beaucoup de vent en ce moment. Elle a tournoyé dans les airs comme une feuille. Et dans le ciel, ça a fait un gros boom. Les anges sont venus se plaindre devant un Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, mais comment c'est possible? Ils prennent les secrets de la Torah, ils les mettent à la portée de tous. Au point qu'on a maintenant des secrets de la Torah qui se baladent comme ça, qui se baladent comme des feuilles. Notamment, qu'il y a plusieurs qui n'étaient pas d'accord avec le Magid Mezritch. Par exemple, il y avait un de ceux qui n'était pas d'accord. C'était Rabbi Pinchas de Koritz. On a parlé Shabbat. Il n'était pas d'accord. Lui, il disait, on ne peut pas diffuser comme ça. Si les initiés, après une introduction, après une préparation, oui. Mais comme ça, on ne peut pas. Et là, a priori, cet événement de la feuille qui tournerait dans les airs ne faisait que conforter ce que disait Rabbi Pinchas de Koritz. Qu'on ne peut pas diffuser comme ça. Et vous savez, dans le ciel, on rigole pas. Dans le ciel, quand il y a une accusation, on va chercher le responsable. Et qui est responsable? Celui qui est à la tête. Donc le Magid de Mezritch convoque ses élèves. Et on dit, écoutez, il y a une accusation dans le ciel. Et on a décidé de s'en prendre à la tête.
C'est lui la tête.
C'est lui la tête. Donc en d'autres termes, il veut leur faire comprendre que il va partir.
C'est Saïloula.
Oui, bien sûr, c'est Saïloula. Donc le Magid de Mezritch fait comprendre à ses élèves que l'accusation est tellement forte qu'il va partir. Il va quitter ce monde. Et là, il y a l'Admor HaZaken qui était encore un jeune élève, mais qui était le plus jeune d'ailleurs parmi les élèves, qui dit, je pense que je peux répondre à l'accusation avec un machal, avec une parabole. Il raconte la parabole suivante. Il dit, il y avait une fois un roi qui avait son fils qui était très malade. On a appelé le plus grand docteur et personne n'arrivait à trouver un remède pour le prince. Et on a entendu qu'il y avait un docteur qui ne pratiquait même plus, qui était très très loin. Fait le rapatrier, etc. Bon. Non, bien sûr, le roi ne regarde pas la dépense, c'est son fils. Donc, il fait venir le docteur. Le docteur, il dit, mais je pratique plus, pose pas de questions, tu viens, on te payera ce que tu veux, pas de problème, viens. Il vient. Et là, le docteur, il dit la chose suivante dans la parabole. Il dit, il y a peut-être une solution. Il faut qu'on trouve une pierre précieuse, il donne le nom de la pierre précieuse. D'accord. Il faut la moudre. Faut en faire une poudre. Il faut la mélanger avec de l'eau. Qui a une substance particulière dans cette pierre, qui est fortifiante. Il faut que cet enfant, ce prince, boive de cette potion, cette poudre. Et avec ça, peut-être, il guérira.
Ah, en plus.
Maintenant, le problème, c'est qu'on a fait des recherches, et la seule pierre qu'on a trouvée, c'était la pierre qui était sur la couronne du roi. Ah. C'était le joyau qui faisait la couronne du roi.
Ici déjà.
Donc, vous savez, une pierre, quand tu l'as cassée, elle n'a plus la même valeur. C'est plus la même chose. C'est une pierre, je sais pas, elle fait combien de carats. Hein?
En plus, il faut la moudre.
Tu vas la moudre, tu vas la tuer, la pierre. Et en plus, tout ça pour un safek.
Et toi avec.
Peut-être que ça va marcher. C'est un docteur qui est venu de loin qui dit peut-être ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, le roi ne réfléchit pas. C'est son fils. Il a pris la pierre, il a moulu, il a donné à son fils. Maintenant, l'histoire s'arrête là. Est-ce que son fils a guéri ou pas? J'en sais rien.
Mais en tout cas, il a fait.
Mais il dit, regardez, tellement, la santé de son fils était importante,
il est prêt.
Qu'il était prêt à prendre tous les risques. Maintenant, qui te dit d'abord que ça va marcher? Et même si on va réussir à Mahmoud, qui te dit que tu vas réussir à faire administrer à l'enfant? Parce que l'enfant, il est malade. Il n'arrive pas à administrer quoi que ce soit. Et même s'il va administrer, qui te dit que ça va le guérir? Maintenant, est-ce que le roi se pose ces questions? Bien sûr que non. C'est mon fils, je dois le sauver. De la même façon, l'Admor HaZaken, il n'a pas expliqué, mais c'était évident. Le Nimshal, l'image. Il dit, le Ham Israël est malade. Et on a besoin de sortir le joyau le plus fort qu'on a. Et le joyau le plus fort qu'on a, c'est quoi? C'est la Kabbalah, c'est la Chassidut. Maintenant, on prend des risques quand on fait ça. On va prendre la pierre qui est dans la tête du roi, dans la couronne du roi. On va la moudre. On va la mettre en poudre. Tout ça dans l'espoir qu'on va faire goûter un petit peu. Maintenant, quand tu vas essayer de faire goûter à l'enfant, il est malade. Ça va dégouliner partout. Celui qui est à côté de ça, il va dire, chaque goutte qui va tomber par terre, il va dire, mais là, t'as 1000 euros, là, t'as 2000 euros, là, t'as 3000 euros. Mais quand le fils, il est malade, on regarde pas comme ça. On se dit, mais attends, même s'il y a une goutte qui peut rentrer, je suis prêt à sacrifier toute la bière pour ça. Alors, est-ce que c'est pas la même chose? Dit l'Admor HaZaken. Même s'il y aura des feuilles qui vont tournoyer dans les airs et que je ne sais pas où ça va aller, si on peut sauver un juif, ça valait le coup. Le Maguid Mezerich, il a rien dit, mais il a vécu encore de nombreuses années. Et on a compris que l'Admor HaZaken, avec la parabole qu'il a donnée, il avait enlevé l'accusation dans le ciel. Parce qu'il a prouvé avec sa parabole que qu'il fallait prendre des risques. Donc on voit deux histoires, un peu similaires a priori. C'est-à-dire à chaque fois on voit qu'il y a une accusation dans le ciel. Il y a une accusation qui est portée dans le ciel. Comment ça se fait qu'on diffuse la chassidut? Il faut savoir que nous on se rend pas compte parce que nous aujourd'hui on fait des cours tous les lundis, on est là-bas au Hachem, on est l'équipe du lundi, on est là-bas au Hachem tous les lundis. Mais normalement, jusqu'à l'époque du Harizal, c'était interdit, je dis bien interdit, de parler en public de tout ce qui était lié à la profondeur de la Torah. C'est-à-dire que la seule chose qu'on avait le droit d'enseigner en public, Chumash, Mishnah, Gemara, et encore Midrashim. Et encore Midrashim. Parce que le Midrashim, c'est pas simple. Maintenant, celui qui voulait un peu du Zohar ou la profondeur, on lui dit, écoute, d'abord tu dois remplir ton ventre, comme ça c'était l'expression utilisée, avec... Tu apprends toute la Gemara. Une fois que tu as remplis toute la Gemara, tu reviens me boire.
Mais c'est le cas aujourd'hui. Hein?
C'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était interdit. Je vais vous dire plus que ça. La Gemara a dit que Maase Merkava, ça veut dire les secrets de la création du monde, on n'avait pas le droit de l'enseigner à deux personnes en même temps. Pourquoi? Parce que si tu enseignes à deux personnes, ce qui peut se passer, c'est que toi, le maître, il est occupé avec un élève parce qu'il a posé une question, et en retenant l'autre élève, son esprit divague et il passe à côté. On avait le droit d'enseigner qu'à un seul élève.
Ouais.
Et même un, donc en privé, et seulement un élève qu'on connaît, et qui a déjà passé en revue toute la Gemara, et qu'on pense que cet élève est en état de mesurer, de comprendre, d'accord, d'assimiler les messages qu'on va lui donner. Ça veut dire que on comprend que c'est des choses qu'on n'a jamais donné au public. Et pourtant, le Harizal, il est venu, plus de 500 ans, un peu moins. Et le Harizal est venu, il a dit, non seulement qu'on a le droit dans notre génération maintenant de dévoiler cette sagesse, la sagesse de la Kabbalah, la sagesse de la Chassidut, mais mitzvah l'égalot zot ha-chokhma. C'est une mitzvah de le faire. On a le droit de le faire. Pourquoi c'est une mitzvah de le faire? Qu'est-ce qui a changé?
Comme tu viens de dire.
Ce qui était interdit à l'époque du Talmud, interdit, je dis bien interdit, c'était banni. Maintenant, on comprend beaucoup mieux la question du ciel. Quelqu'un à l'époque qui venait à Métamérique, je étudiais la Torah, la Chassidut, etc. Il dit, bah, tu vas prendre la Lacha d'abord, quand tu seras bien roulé le jeu, tu reviens me voir.
Oui, c'est logique. Et on a besoin d'une intervention du bas pour changer le haut.
Alors justement, seulement le Harizal est venu. Et le Harizal, il a dit de nos jours, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un principe talmudique qui dit que lorsqu'on n'a pas le choix, et la Asot, la Shem et Ferut Toratecha. Lorsqu'on n'a pas le choix, on peut enfreindre entre guillemets la Torah. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le Chumash, on appelle ça la Torah écrite. Et la Gemara, on appelle ça la Torah orale. Pourquoi on appelle la Torah orale? C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit. Pourquoi on appelle la Torah orale?
Parce
qu'à la base, la Gemara, on n'avait pas le droit de l'écrire.
Ah oui, c'est vrai.
Comment c'est qu'on a des gemarotes écrites aujourd'hui? Parce que quand les maîtres se sont rendus compte qu'on oubliait, alors ils ont dit, même si on n'avait pas le droit de le faire, comme c'est pour Hachem, on va enfreindre la Torah, on n'a pas le choix.
C'est une jurisprudence.
Exactement. Donc de la même façon, si le Arizal a dit que c'était autorisé de dévoiler la Chassidut, dévoiler la Kabbalah en général, dévoiler le Zohar à la portée de tous, parce qu'on n'a pas le choix. C'est le seul remède qu'on a contre les maux de la génération. Il faut savoir, ça veut dire que t'as les maux de la génération, t'as l'assimilation. On a vu, ils ont vu bien avant nous le problème de l'assimilation. Quand une personne est assimilée, comment tu la ramènes à la Torah? Il me faut une arme. Quelle est l'arme que tu vas sortir contre le Yitzhara? Le Yitzhara qui te sort des problèmes, qui te sort des tentations. L'arme, c'est la Kabbalah, l'arme, c'est la Chassidut. Donc on n'a pas le choix de diffuser. Ça, c'est une première raison. Il y a une autre raison. C'est écrit que peu avant Mashiach, HaKadosh Baruch Hu, il nous donne à goûter un avant-goût de Mashiach. Vous savez, comme on avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, au cours du Shabbat, que c'est une mitzvah de goûter les plats du Shabbat avant l'entrée du Shabbat. Il y a beaucoup qui connaissent bien cette mitzvah. Et donc, comme on s'approche de Mashiach, alors mitzvah les galotes de ta chorma. C'est une mitzvah de dévoiler cette chorma. Donc on va dire les chaim. Et on doit savoir la chance qu'on a. On se rend pas compte, mais on se rend pas compte. Comme nous a fait remarquer Jacques, qui d'ailleurs va demain chez... On a, si vous voulez, trois stars, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui. D'accord? Alors, je vais les donner dans l'ordre de naissance. D'abord le Magid Meserich, son anniversaire aujourd'hui. D'accord? L'anniversaire de décès. On a l'Admour Azaken, c'est la date de sa libération. Et on a Rabbi Chaïtaï Lomet. C'est aussi aujourd'hui.
Et c'est quoi là?
Yutel qui se lève.
C'est quoi là?
19 qui se lève.
Naissance ou décès?
Décès. La qui dit son nom. Yutel qui se lève.
Lomet.
19 qui se lève. C'est une date extraordinaire. On se rend pas compte à quel point il y a des gens, des tzadikim. On se rend pas compte à quel point il y a des tzadikim qui ont donné leur vie pour nous. Parce que eux, lui-même, l'Admour Azaken, le Magid Meserich et le Baal Shem Tov, ils connaissaient déjà pour eux. Ils ont décidé de le mettre à la portée de tous. Ils ont pris des gros risques en faisant ça. Et on a vu que c'est pas un risque. Leur vie a été mise en danger à cause de ça. S'il était en prison, c'est pas parce qu'il a fait du CO2. Ah. Non mais c'est sérieux ce que je dis. C'était pas un repris de justice, l'Admour Azaken. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, nous, parce que nous on a grandi dedans. Mais quand tu racontes aux gens, tu dis, vous savez, ça, on fait pas tachanoun parce que le rabbi il a été libéré de prison. Et tu dis aujourd'hui c'est rabbi un tel, et demain c'est rabbi un tel, et après demain c'est rabbi un tel qui a été libéré de prison. Les gens ils comprennent pas, ils disent mais je comprends pas, chez vous tous les rabbis ils ont fait de la prison, c'est...
C'est odieux, c'est dur.
C'est quoi, c'est le cartel, c'est quoi?
C'est des dealers.
C'est vrai, il faut comprendre. C'est que c'est les tzadikim qui ont donné leur vie pour nous. Ils auraient pu rester dans leur coin, faire leur Torah, leur mitzvot. Ils ont donné leur vie pour nous. Si en bas ils ont eu un problème, c'est qu'en haut, ils ont osé de bouger des crans que personne n'a bougé. Parce que c'est facile de dire, on change pas une équipe qui gagne, on touche pas. Eh ben tant pis, si les gens sont malades, dans lequel ils sont malades. Comme dans l'exemple du fils du roi. Le fils du roi, il va mourir, on dira Kapara, il est mort. Mais il y a des gens qui disent non! Il n'y a pas Kapara.
Une chance. C'est facile de rien faire, c'est quand tu fais quelque
chose. Exactement. Exactement.
C'est beaucoup de choses pour prendre une
petite. Bien sûr.
C'est facile de dire, c'est Mila Shamaïm, c'est comme ça. Mais l'Admour Azaken, le Baal Shem Tov, le Magid Meserich font partie de ces grands maîtres, font partie de ces grands maîtres qui ont dit, on prend des risques. On prend des risques. Et ça veut dire, ça, ils ont pris un risque sur leur peau, ils ont risqué leur peau, ils ont risqué leur âme. Parce que, comprenez qu'un tzadik comme l'Admour Azaken, imaginez que on l'accuse et que ça marche pas et qu'il arrive en haut. Eh ben, où on l'envoie? Au Gan Eden ou au Gehinnom?
Au
Gehinnom. Au Gehinnom? On lui dit, de quel droit t'as pris ça, t'as diffusé? Seulement, il voit pas les risques. Il diffuse. Donc, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de la chance qu'on a. Et aujourd'hui, nous, on est là. Quand on dit à quelqu'un, viens à un cours de Torah, viens à un cours de Tanya, viens à un cours de Chassidut, il va dire, ah, je suis occupé, ce soir il y a un match, j'étais fatigué,
joué,
les transports, et ci, et ça, etc. Mais tu comprends pas. Ça c'est rien par rapport à ce que les tzadikim ont donné pour nous. On peut dire, les chaim, Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on intensifie l'étude de la Chassidut, en particulier l'étude du Tanya. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui, au Hachem, étudient le Tanya tous les jours pour le terminer en un an. Des gens qu'on s'imagine même pas. Je parlais ce matin avec quelqu'un.
Exact.
D'accord? Je parlais encore cet après-midi avec une autre personne. Hier encore avec une autre personne. Des gens que je m'attendais pas du tout. Des gens qu'on aurait dit qui payent pas spécialement de mine. C'est pas des gens avec une barbe. C'est pas des gens qui portent la kippa toute la journée.
La bif est pas le moine.
D'accord? Mais c'est des gens qui ont pris sur eux la décision à Yutet qui se lève parce que le cycle commence ce soir.
Ah.
À partir du 19 qui se lève. Oui, c'est un cycle. Vous avez une application iPhone qui s'appelle Tanya. iPhone, Android, ce que vous voulez. D'accord? D'accord. Et le programme commence maintenant, ce soir?
Demain matin.
Vous avez un programme. En un an, vous finissez le Tanya. Alors vous savez, c'est comme dans toutes les grandes choses. Tu lis une première fois, tu comprends un peu plus, tu comprends un peu moins. Bon, tu passes une première fois. Mais c'est clair qu'on voit ici à quel point ça change la vie.
Et de la profondeur.
Et on voit Mamash, je peux vous dire, on va chanter parce que c'est plus important de chanter. On voit Mamash à quel point, je l'ai vu de mes yeux ça. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le business de l'enseignement du Tania.
Ça donne ou pas?
Alors je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être, je sais pas, 13, 14 ans, j'enseigne le Tania. Dans tout le cours de Tania que j'ai donné, et bah au Hachem, j'ai pas vu une personne qui n'a pas été affectée par le Tania. Je pèse mes mots. Hein. J'ai pas vu une personne qui n'a pas été affectée. Affecté, c'est-à-dire touché, changé. Ça veut dire après, il y en a qui changent un peu plus vite, il y en a qui changent un peu moins vite. Mais c'est quelque chose qui te...
Quand tu te capes
direct, ça touche ta neshama direct, tu peux pas ne pas être touché par ça. Et ça, là, Morazakan, il l'a fait pour nous, parce que lui, il connaissait déjà ça. Il a pris un effort de structurer, de faire, etc. Ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On va dire les chaim. Et ça, on va faire le simcha. Donc, on va chanter Ashrenu Matofrekenu. Et après, on va faire Jacques, qui va nous faire, il a amené la guitare. Et il va nous faire comme on l'a déjà fait la dernière ou pas, Jacques? Padav Shalom. Hein? Padav Shalom. Alors, je vous dis, comme ça, je vous explique ce que c'est la chanson. D'abord, on va chanter Ashrenu. Ça, on se met un peu dans le. Après, je vais vous expliquer c'est quoi Padav Shalom. Ah, d'abord, est-ce que tout le monde a dit les chaim? Nous les jeunes,
Chaim,
hein?
Chaim.
Je vais vous parler,
boire de l'eau.
Nous, les bouteilles sont encore pleines, là. C'est quoi ça? Ashun matov chelkeinu manayeinu aleinu mayava yava 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 yerushatenu ashreinu matov chelkeinu manayeinu goraleinu mayava yava 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 yerushatenu. Yafa Yerushateinu No Matov Chelkeinu O Manaye Goraleinu O Mayafa Yafa 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 Yerushateinu Bon, alors maintenant, avant que Jacques, le temps que Jacques me prépare là. Il est là. Ah, voilà. Il va gratter. Le Nigoun qu'on va chanter avec Jacques, c'est une mélodie qui a été composée par les Chassidim à l'occasion de Yutet Kislev. Le 19 Kislev, c'est le jour où l'Admor Hazaken a été libéré de prison. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a été libéré au moment où il était en train de commenter pour lui-même, pour soi, en prison, le psaume 55. Et il est en train de commenter là-bas, hein, je crois que c'est le 10e verset ou le 11e verset, le verset qui dit « Padav et Shalom Nafshi ». Mon âme a été rachetée en paix. Je crois que mon père Laura a fait le mamar dessus aussi sur ça. dimanche matin. Badav Shalom Nafshi, mon âme a été rachetée en paix. C'est-à-dire ça, c'est une idée qui a été reprise après par les, dans les Mamarim, par les Rebbeim les années suivantes, pour expliquer. Ça veut dire quoi que mon âme a été rachetée en paix? Ça veut dire quoi qu'un juif est à savoir que Vaani Eftar Bar, la seule chose sur laquelle on peut avoir Bitachon, c'est Akadosh Baruch Hu. La seule chose en qui on peut avoir confiance, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Rien d'autre. Donc c'est un Nigoun, vous allez voir. Alors, bon, Jacques va nous le faire, mais au début, ça commence, c'est... On se recherche dans le Nigoun au début. Etc. Et après, plus on avance, et plus on... Vous savez, c'est comme une personne qui est dans une... Dans une pièce obscure et il cherche la lumière. Donc au début c'est
il tâte,
etc. Et plus on avance dans la musique, n'est-ce pas Jacques? Et plus le rythme, il avance parce que tu sens que ça avance. Et à la fin de la musique, d'accord? C'est là qu'arrive le moment, c'est là qu'arrive là.
C'est mon avis, le mieux, c'est pas de m'écouter. Le mieux c'est d'aller mercredi au doc.
Ah oui, oui.
C'est quoi? C'est le doc de Paris à Saint-Ouen.
Ouais. Ah, Aubervilliers.
Aubervilliers.
Aubervilliers,
ça y est.
Bien sûr, faut y être.
Faut y être, c'est à 8h30 et c'est gratuit.
Sur Radio.
Oui. C'est la fête de Tel Kislev. Bon, Chaim, Chaim, Jacques, d'abord les Chaim avant de.
Non, mais nous, ne nous écoutons pas.
Il y a un énorme. Allez, Chaim, Chaim. Chaim, Chaim. Alors, Jacques, il voyage demain matin. À Tunis, et quand je lui ai demandé cet après-midi, je crois que la seule raison pour laquelle il ne l'a pas refusé, c'est parce que c'est pour l'album Razaken. C'est la veille d'un départ, il part en plus.
Parce qu'a priori, donc, c'est pas ça, c'est qu'a priori, je suis encore en deuil, donc j'ai pas trop de. Enfin, j'ai pas voulu poser la question, je t'ai écouté.
Et rien de pas.
Tu as rajouté quelque chose, donc j'ai dit allez.
Non, mais je reste assis. L'album Razaken, il dit.
Voilà ce que tu as dit, très bien. De toute façon, je peux être indulgent, parce que j'ai pas touché la guitare depuis 3 mois.
Pas de problème.
On va être indulgent.
C'est vraiment pour.
Alors, on a l'habitude chez les Chassidim de chanter ce Nigoun à Yudé Kislev.
Bon, c'est une petite adaptation, c'est pas.
Alors, j'en chante avec vous.
Ah,
לא לא יצא לא יצא
ואני אפטר בך. ואני אפטר בך. Là-bas, il dit dans le psaume 55, justement, il dit Pada veshalom nafshi. Mon âme a été rachetée en paix. Ça veut dire quoi? Il explique, il dit lorsque une personne passe par un moment de difficulté, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il y a une façon d'être racheté, d'être sauvé par la guerre. La guerre. Mais la guerre, ça coûte cher. À la guerre comme à la guerre. À la guerre, on laisse des plumes. Mais on dit, pas d'ave shalom nafshi. Il y a une façon d'être racheté en paix. Ça veut dire qu'il explique là-bas dans le Mahamar que quand on est racheté en paix, on va expliquer après ce que ça veut dire concrètement dans notre vie, non seulement non seulement qu'on laisse pas des plumes, mais au contraire, l'ennemi devient notre ami. De quoi je veux parler? De quoi je veux parler? On sait très bien que le Yetzer Hara est notre pire ennemi. Le pire ennemi que nous avons, c'est notre Yetzer Hara. Il y a plusieurs façons comment prendre le Yetzer Hara. Il y a une façon de dire, je vais lui faire la guerre. Je vais me battre avec lui. Et ça marche. C'est vrai, on peut faire la guerre. Des gens qui font la guerre à le Yetzer Hara toute leur vie, et ça marche. Mais la Chassidoute, elle t'apprend, elle te dit, tu dois savoir qu'il y a aussi Padav et Shalom Nafshit. On a un peu être acheté en paix. Ça veut dire que la Chassidoute te donne les outils pour avoir, pour réveiller en toi le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, et pour racheter ton âme de façon pacifique, sans guerre. C'est ça l'époque de Mashiach. On dit que lorsque Mashiach va venir, les épées seront transformées en socs de charrue. Ça veut dire que, c'est quoi une épée? Une épée c'est pointu. Maintenant une épée c'est fait pour tuer. Donc si tu, qu'est-ce qu'on va faire quand Mashiach va revenir? Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les épées?
On va le recycler.
On va recycler ça, on va faire des socs de charrue. C'est une image.
Transporter.
Et le rabbi, il avait fait tout un farbringen autour de ça, plusieurs farbringen. Lorsque dans les années, à la fin des années 80, surtout au début des années 90, on voyait comment le monde commençait à changer, comment on transformait l'énergie nucléaire, etc. Bon, on a encore du chemin à faire. Et sur ça, on a expliqué que Vani Eftarbar, un juif, il doit savoir que le seul bitachon qu'il doit avoir, c'est sur Akadosh Baruch Hu. Que Anche David Mumirma, Loïchetsu Imeem. Les gens qui sont par la ruse, Loïchetsu Imeem. Ces gens-là, ils termineront pas leur jour. Mais Vani, moi, Eftarbar. Moi, j'aurai bitachon, j'aurai confiance en toi, Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas David Shalom Nafshi. Et c'est pour ça que l'Admour Azaken, lorsqu'il est sorti de prison, il a gagné. Normalement, quand il a gagné, il aurait pu faire le vainqueur. N'oublions pas qu'il avait des opposants, le Mitnagdim, qui lui voulaient du mal, qui voulaient sa peau. Et comme ils ne pouvaient pas le tuer, donc ils ont dit on va le mettre en prison. Ils ont trouvé toutes sortes d'accusations. Donc le sentiment naturel de n'importe quel chassid aurait été de dire, maintenant qu'on a gagné, on va lever la tête, on va leur rentrer dedans, on va leur montrer voilà ce que vous avez vu. La première lettre que l'Admour Azaken a écrite lorsqu'il est sorti de prison, première lettre, Katonti Mikol Chassadim. Il a dit, comme Yaakov Avinu a dit, je me sens petit devant toutes les bontés qu'Hachem m'a fait. Et il a écrit une lettre explicite dans laquelle il demande aux Chassidim de ne pas utiliser cet événement Chassad Shalom pour lever la tête contre qui que ce soit. Au contraire, de rester humble, de garder l'humilité. Et il leur a dit plus que ça. Il leur a dit, je veux que la Simcha d'aujourd'hui, la Simcha de Yutet Kislev, soit une Simcha qui soit partagée par tout le clan Israël. Maintenant, je vais vous dire la vérité. À l'époque où l'Admor Hazaken a dit ça, ce souhait avait l'air complètement détaché de la réalité. La réalité du peuple juif. C'est-à-dire que l'Admor Hazaken touchait quelques milliers de personnes. Dire que tout le clan Israël va suivre la Chassidoute, va se réjouir pour l'Admor Hazaken, c'était idyllique peut-être, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était complètement détaché de la réalité. Mais on sait très bien que ce qu'un tzaddik dit, ça s'accomplit. Et je peux vous dire que ça va s'accomplir de plus en plus. Aujourd'hui, le message de la Chassidout passe dans des endroits où on n'a même pas idée où ça passe. À l'instant où je vous parle, en Eretz Israël, il y a la plus grande salle de Jérusalem qui a été louée pour toute la semaine. Binyané Aouma. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler.
Non.
Binyané Aouma, c'est le plus grand palais des congrès qu'il y a à Jérusalem. C'est l'équivalent de... même plus grand encore.
Grand palais, non.
Plus grand que Port-Payon encore. Très grand, très grand.
Et là, ce soir, c'est spécial.
Et non, pas ce soir. Ah. Ils ont loué, écoutez bien ce que je veux dire.
Semaine.
Ils ont loué pour toute la semaine.
Ah ouais.
Toute la semaine. Matin, midi et soir, il y a des programmes différents pour des publics différents. Ils attendent plus de 50 000 personnes. 50 000 personnes.
Par soir ou tout
non, pas, c'est pas possible. La salle, elle contient 3 000 personnes.
Ah d'accord.
D'accord. Mais il y a des programmes. Et quand je vous dis le public qui va là-bas, t'as même pas 10% de Rabat.
Ouais, sur l'intérieur,
ça veut dire, et c'est quoi? Ça a été loué par qui? Ça a été loué par quoi? Ça a été loué par une institution qui s'appelle Torah Rabat Livna Yeshivot, qui diffuse la Chassidoute, qui adapte la Chassidoute à tout le monde. Et tu vois comment ils ont fait plus que ça, ils ont fait carrément une foire de la Chassidoute. T'as une foire, comme un expo, mais avec des centaines de milliers de livres, qui sont édités spécialement pour l'occasion. De Chassidoute, que de la Chassidoute. Alors il n'y a pas que Chassidoute Rabat, il y a toutes les Chassidoutes, Chassidoute Breslev, Chassidoute Gour, etc. Et les gens ils viennent, je vais vous dire, ceux qui veulent, je pourrais leur montrer les photos après. Les photos commencent à arriver là. À l'entrée de la foire, t'as des caddies. Les mêmes caddies que tu vas quand tu vas au champ, T'as des caddies, d'accord. Des caddies avec le logo Yerid Torah Trabat, d'accord. La foi. Et les gens, ils viennent, ils remplissent des caddies entiers.
De livres.
Des caddies entiers de livres. On leur fait, il y a des donateurs qui s'arrangent pour que les livres soient pas chers. Les livres à, je sais pas, les 3 livres à 100 shekels ou les 4 livres à 100 shekels, c'est rien du tout. D'accord. Et les gens, ils achètent, ils remplissent des caddies entiers. Et maintenant, comme ils disent peut-être que les gens qui n'oseront pas parce qu'ils vont dire, mais comment je vais ramener ça à la maison? Quand tu arrives à la caisse, t'as un service livraison, si tu veux. Pour blèche, pour rien du tout. Et t'as des gens, ils écoulent des centaines de milliers de livres. C'est-à-dire, je vous dis, je pourrais vous montrer les photos après ceux qui veulent. T'as des piles de livres qui montent. Et ça se vide. Les gens, ils viennent, ils achètent. Ben, tu dis, ils ont acheté quoi? Qu'ils sont venus acheter quoi? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Qu'est-ce qu'on leur a acheté? Qu'est-ce qui leur a parlé? C'est le message de la Chassidut. Alors, c'est le message de la Chassidut, adapté pour les enfants, adapté pour ci, adapté pour ça. T'as des livres pour les femmes, des livres pour les enfants, des livres pour les hommes, des livres pour ceux qui plus avancés, plus moins avancés, pour tout le public. Ça veut dire qu'on voit que le message de la Chassidut est en train de passer partout. Partout. Qu'il n'y a pas un endroit où ça passe pas. Et je vais vous dire plus que ça. Parmi les 50 000 personnes que je vous ai dit, maintenant, le problème, c'est que les tickets sont déjà vendus pour la majorité des sessions. Donc maintenant, c'est retransmis en live sur Internet. Et vous avez des chanteurs et des artistes israéliens qui ne sont même pas religieux. Je ne parle même pas de gens qui ont une autre tendance du judaïsme. Ils ne sont pas religieux. Pas encore religieux, comme le rabbi dit. Parce qu'un juif, il n'est pas encore religieux, c'est tout. D'accord ? Et ils sont là, en train de chanter les dégounim, en train d'essayer de capter les messages de la chassidoute. Extraordinaire. Maintenant, nous, quand on entend ça, on se dit, mais quand l'Admor HaZaken, il a dit ce qu'il a dit. Quand l'Admor HaZaken, il a dit que viendra le jour où ma fête sera, comme que je vous dis, parce que j'ai regardé le mot, il dit, je veux, voilà, il dit, Retsono shel Rabbeinu HaZaken Haya, she Torat Chassidut tiye shayechet lechol bnei Israël. La volonté de l'Admor HaZaken était que la Torah de la Chassidut soit shayach, accessible et appartienne à tous les bnei Israël. Ve'osif ve'amar, et l'Admor HaZaken a rajouté, et il a dit, parce qu'il est conscient que ce n'était pas la réalité de ce jour, Shesof kol sof, que finalement, Tiye Torah ta chassidut shayichet l'chol bnei Israël, la Torah de la chassidut sera, appartiendra à tous les bnei Israël, chez kol bnei Israël l'imledu Torah ta chassidut, car tous les bnei Israël étudieront la chassidut. Ça, c'est ce qu'a dit l'Admor HaZaken. Ça veut dire, c'est pas des blagues, des choses très, c'est juste extraordinaire. On a l'Admor HaZaken, était tout sauf inconscient. Au contraire. L'Admor HaZaken voulait que les choses se fassent de façon la plus naturelle possible. Et je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Lorsque l'Admor HaZaken a été emprisonné, donc on l'a embarqué dans ce qu'on appelait la carriole noire. Enfin, c'est un. Ça veut dire que c'était. On savait que celui qui rentrait dedans, en général, il revenait pas. Alors, on savait. C'est-à-dire quand. Voilà, c'est comme si je vous disais Alcatraz, enfin bon, vraiment, c'est celui qui rentre dans la carriole noire, on savait qu'il revenait pas. Chas v'shalom. Et donc l'Admor HaZaken, on l'a mis dans cette carriole noire. Et lorsque l'Admor HaZaken, il savait qu'il était recherché, il s'est caché. Parce que la Gemara, elle dit ça, elle dit que quand on sent qu'il y a un décret qui arrive, il faut baisser la tête, des fois, le temps qu'on baisse la tête, le décret passe, après on se relève, après ça va. Alors, mais concrètement, il savait qu'il était recherché. Alors l'Admor HaZaken a posé la question à un de ses chassidim, Rav Shmuel Munkes, qui était un grand chassid. Il lui a posé la question, il a dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu penses que je dois me rendre? Est-ce qu'il était recherché? Ou est-ce que tu penses que je dois continuer à me cacher? Alors Rav Shmuel Munkes, qui était un peu taquin, il lui a répondu, il a dit, Rabbi, de deux choses l'une. Si vraiment vous êtes Rabbi, rien ne vous arrivera. Et si vous n'êtes pas rabbi, de quel droit vous avez enlevé le plaisir de la matérialité de tellement de personnes? Parce que c'est tout celui qui étudie le Tania, il ne peut plus kiffer le matériel comme avant. Il l'a enlevé un petit peu. Donc il a dit, si vous êtes rabbi, rien ne vous arrivera. Et si vous n'êtes pas rabbi, de quel droit vous avez enlevé? Admor HaZaken, il a entendu l'argument, et il a accepté, il s'est rendu. Donc il est rentré dans le carré noir. Et à un moment, je vous ai dit Alcatraz, mais à un moment, c'était une prison qui était au milieu de... Au milieu de l'eau. C'est pas une mer, mais c'est un très grand lac. Et donc, exactement, c'est impossible de s'enfuir de là-bas. c'est très froid, enfin c'est impossible de faire.
Oui, oui, là, il y a des requins partout.
Et donc, du coup, à un moment, le Carl Nord s'arrête et on le fait descendre, on le met dans une barque. C'était le soir, pour aller faire la route pour aller à la prison. Les quelques kilomètres qui restaient jusqu'à la prison. On fait monter dans la barque, et à un moment, la Dourazakan, il lève ses yeux, et il voit que la lune, elle est bien pour faire Birkat Elevana. Et il n'avait pas encore fait Birkat Elevana. Maintenant, je vous rappelle, on l'amène dans la prison, etc. On ne veut pas. Donc, il demande gentiment au garde, il lui dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît? Parce que Birkat Elevana, moi, il voulait faire bien se lever normalement, etc. Et est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît? J'aimerais faire la bénédiction sur la lune. Il y en a l'autre, il...
Le russe.
Même pas il répond, tu vois, c'est, il dit, elle a perdu la tête, il dit, il même pas il répond, il dit, c'est une bénédiction sur la lune.
Allez, vas-y.
Alors, du coup, l'autre il refuse, et la barque s'arrête.
Elle avance plus.
D'accord? Donc l'autre il a compris. Et il a pas voulu, d'accord? Donc, l'autre il a compris. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit à l'Admorazaken, d'accord, je suis d'accord, vous faites vos bénédictions. L'Admorazaken dit, attends, pas tout de suite. La barque, elle est repartie. Après, il dit, maintenant, si tu veux, tu peux t'arrêter.
Ah, c'est quand il a dit.
Et il s'est arrêté, et il a fait dire qu'à Télévana. Alors, sur ça, le rabbi ramène une histoire, qui dit que le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, il a raconté cette histoire. Et il a posé une question. Il a dit, Miman Afshar, de deux choses l'une. Si l'Admorazaken pouvait arrêter la barque, pourquoi il l'arrête pas directement? Tu l'arrêtes, tu fais ce que tu as à faire et c'est fini. Tu fais ta bracha et tu t'en vas. Après, il demande. D'accord ? Et si tu me dis qu'il peut pas, alors comment il a fait pour l'arrêter ? C'est quoi le pchat ? Alors, le rabbi, il a amené un pirouche au nom du rabbi Yosef Yitzhak qui dit comme ça. Il dit en vérité, bien sûr que l'Admorazaken, il pouvait faire sans aucun problème. Il pouvait arrêter la barre sans aucun problème. Seulement. La volonté d'Akadosh Baruch Hu est qu'une mitzvah se passe de la façon la plus naturelle possible. Or, s'il a arrêté la barque par un miracle, cette mitzvah n'a pas été faite naturellement. Elle a été faite par un miracle. L'Admorazaken, il voulait pas faire la mitzvah avec un miracle. Il voulait faire la mitzvah naturellement. Et si naturellement il faut demander au garde, on demande au garde. Le garde, il a pas voulu. On lui a montré un peu les muscles. Regarde qu'il a compris. Après, le garde, il a accepté. Mais il a dit, attends. D'accord. D'abord maintenant, roule, et je veux que c'est toi qui acceptes. Il a accepté. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est que l'Admorazaken, il a dit, comment je peux te remercier? Alors, il lui a dit, non, je sais pas, parce que, attendez, ça, je vous ai pas raconté. Parce que le garde, dès qu'on lui a demandé, le garde, il était pas bête, il a compris. Il a dit, si je m'arrête, qu'est-ce que vous me donnez? Il a compris qu'il y avait un truc. D'accord. Il a compris que son accord était important. Alors, l'Admorazaken, il a dit, si tu t'arrêtes, je te bénis d'avoir une longue vie. Une longue vie. Tu vivras très longtemps. L'autre, il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de très important. Il a accepté. Il a dit, j'accepte, à condition que vous m'écrivez ça sur un papier. Il a demandé à Zaken. Ils sont arrêtés sur place. Demandé à Zaken, il est pris content. Il lui a écrit sur un papier. Il a dit, voilà. Il dit, un tel, fils d'un tel, etc. aura une longue vie. Et le rabbi Yosef Yitzhak, qui raconte qu'il a connu un chassid. Qui a vu ce papier. Qui a vu le paysan, qui était déjà, je sais pas, il avait déjà 100 ou 100, je sais pas combien d'années. Pour l'époque, par rapport à l'espérance de vie de l'époque, c'est énorme, d'accord. Et il racontait cette histoire à tout le monde. Les gens lui demandaient, mais comment vous êtes vivant? C'est-à-dire que, il avait des enfants qui étaient morts, etc. Lui, il était encore là.
Et, raconte l'histoire.
Et les gens lui disent, mais d'où vous sortez? D'où vous sortez? Qu'est-ce que vous faites là? D'accord? Et il disait, la bracha. J'ai reçu la bracha. C'est-à-dire, de là on voit que Mamash, l'Admorazaken, il nous a montré que les musées doivent être naturellement. Donc si l'Admorazaken voulait que la chassidoute soit directement accessible par tout le monde, il aurait pu faire un miracle, ça aurait été le cas. C'est-à-dire que l'Admorazaken, quand il faisait les débats, genre, je rentre une histoire dans les histoires, mais il y a tellement d'histoires avec l'Admorazaken. On raconte qu'il y avait une grande ville où il y avait beaucoup de talmidei chachamim qui s'appelait la ville de Minsk. Il y avait aussi une autre ville qui s'appelait la ville de Shklov. Deux grandes villes où il y avait des talmidei chachamim. Et l'Admorazaken, il a entendu que là-bas il y avait une grande opposition au chassidisme. Alors il leur a dit, et les chassidim là-bas souffraient beaucoup. Alors il a fait une proposition suivante. Il a dit, je suis prêt à venir le jour où vous voulez au Beit HaMidrash, et vous me posez toutes les questions que vous voulez. Donc, on a accepté, et le jour convenu, il y a eu tous les génies de Shklov et de Minsk qui sont venus,
Ils sont rassemblés au Beth Amidrash et ils avaient préparé des questions très très fortes. Très très fortes. Ils sont rassemblés au Beth Amidrash et ils ont tous posé leurs questions. La Mourazé a dit, je vais écouter les questions de tout le monde et après je vais répondre. Il a écouté. Ils ont posé des questions très fortes, c'est pas n'importe quoi, des questions sur la chassidoute et des questions en général, de Gemara, très très fortes. Après la Mourazé Ken, il est monté sur la Bima et il a commencé à dire Tamour ou Kitov Hashem. Alors je vous le dis avec l'air, hein, comme ça le Rabbi l'a répété l'air. Goûtez et vous allez voir à quel point la divinité est grande. Maintenant il a dit avec un air, juste en disant cette phrase, comme ça on raconte dans l'histoire, hein, c'est même pas lui qui raconte, c'est tous ceux qui étaient là qui racontent. Toutes les questions qu'il y avait dans les têtes des gens ont disparu. Plus de questions. Ce jour-là, il y a eu 300 élèves des plus grands de Shklov qui sont venus avec le Morazaken. Donc vous y vous allez. C'est-à-dire que le Morazaken, si vous voulez convaincre, vous pouvez convaincre sans aucun problème par la persuasion et par des forces célestes, etc. C'est-à-dire juste en chantant. Le Rabbi l'a répété plusieurs fois, on va rien de ça. Tamo, je vous le dis en yiddish. Tamo, kitov Hashem, farzur vetirzen, asdarei bershter isgout. Goûtez et vous verrez que Dieu, c'est bon. Juste en disant cette phrase, il les a pris. Mais, avec ça, l'Admorazaken a voulu que les choses se passent naturellement. Il a dit, on va laisser le temps au temps. On va laisser le temps que le Tanya, que le Chassidut, petit à petit, comme de l'huile. Que ça se diffuse petit à petit, petit à petit. Et ça rentre partout. Ça rentre partout. On n'a pas idée. Je lisais hier, il y a par exemple un rave en Israël, à la Vache Shalom, il a quitté ce monde il n'y a pas longtemps. Le rave à Bergel, vous avez entendu parler? Le rave Yoram à Bergel. Un très grand rave dans le monde Sfarad. Il a écrit 12 livres sur le Tanya.
Des livres
de commentaires sur le Tanya. D'où il connaît le Tanya? D'où connaît le Tanya? Parce que depuis qu'il était petit, je suis allé à la maison d'étudier le Tanya. Et quand il était à sa yeshiva, qui n'était pas une yeshiva Chabad, il s'est rapproché de son maître, qui était le Rav Issachar Meir, et qui n'est pas Chabad non plus, d'accord, du tout. Et il a dit, j'ai envie de voir ce que le Rav utilise dans son bureau. Il rentre dans le bureau et il voit un Tanya. Sur la table. Et il a compris, donc le Rav il a dit, ça c'est mon livre. C'est avec ça que je vis. Et les enfants du Rav Bergel, ils racontent que le livre de Tanya de leur père, il était tellement usé qu'il fallait le relier à chaque fois. Et à chaque fois, vous savez, quand vous reliez un livre, vous mettez les fils, etc. Après un moment, les fils, ils lâchent. Et ils ont relié. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont ce livre, il y a des photos. C'est un livre que leur père a passé des centaines, voire des milliers de fois. 12 livres de commentaires, il a écrit sur le Tanya. Non, moi je pourrais vous dire, je connais des maîtres de la Chassidut Chabad qui ont écrit plus que 12 livres. Mais c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que le Tanya est passé partout. Il n'y a pas l'endroit où il n'est pas parti. C'est quel rapport? Comment le Tanya est arrivé chez Rav Bergel? Quel rapport? Il compose 12 livres dessus. Et jusqu'aujourd'hui, dans son collège là-bas, à la Vachelam, il a quitté ce monde jeune malheureusement, mais il est dans le monde, dans l'Amamet, jusqu'aujourd'hui dans son collège, tous les matins, on commence la journée avec Tanya. Hein? Extraordinaire. Et nous, on est là, dans un bête rabat, on est là en train de chipoter. Ah, peut-être je viens pas, etc. Mmh. Mais tu t'imagines pas. Les gens, ils ont soif. Ils ont soif. Il y en a, il m'a dit ce matin, il m'a dit, je dis le Tanya, mais j'arrive pas à comprendre. Voilà, ça veut dire qu'on veut apprendre. Les gens, ils ont la soif d'apprendre. On a un timon, une soif extraordinaire. Ça, il faut dire les chaim, on voit que petit à petit, le message de la chassidut va rentrer. L'Admor HaZaken est un pot sec. Si l'Admor HaZaken a tranché, c'est comme ça que ça va se passer. Que la chassidoute finira par être acceptée par tous. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est fini. C'est-à-dire, l'opposition sur ça est terminée. Il n'y a plus d'opposition sur ça. Personne ne vous dira, Altania, c'est des rigolos. Personne ne vous dira ça aujourd'hui. Ça n'existe pas. Personne. Celui qui dit ça, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que c'est la base. Donc nous, on va dire les chaim. Je sais que quand on étudie le Tania, des fois, il y a des gens qui sont un peu perdus. Surtout actuellement dans le cours de Tanya, lundi soir, on dit Shara Echud Ve'emouna. Shara Echud Ve'emouna, attendez, il faut que je raconte une histoire à Bichaïté avant que vous partez. En l'honneur de vous avez venu avec la guitare et tout, je raconte une histoire. Vous dormirez dans l'avion.
Si on peut rester jusqu'à 5h du matin.
Et qu'est-ce que j'ai en train de dire?
Shara
Echud Ve'emouna. C'est la section la plus compliquée du Tanya.
Lequel
chapitre? Shara Echud Ve'emouna, toute la section. 12 chapitres, c'est les plus compliqués du Tanya. Les plus compliqués. Et on voit qu'on étudie, Baruch HaShem, on voit qu'on avance. Je vais vous dire honnêtement, la première fois, dans le premier cycle qu'on a fait du Tanya, on n'a pas fini Shara Echud Ve'emouna. On est arrivé au chapitre 4, chapitre 5, je voyais que les gens ne suivaient pas.
Alors bon, j'ai attendu qu'il y avait les vacances. Après les vacances, j'ai commencé autre chose. J'ai dit, on reviendra, on n'est jamais revenu.
Ah oui.
Ouais, je fais des coups de ça. Pourquoi? Parce que je voyais que ça ne suivait pas. D'accord.
C'est pour ça
qu'on est revenu. Et voilà. Et là, quand j'ai dépassé le chapitre 4, j'ai dit, bah, au Hachem. Maintenant, on dit, quel chapitre? On est 7 maintenant, bah, au Hachem. Voilà. On est en 12e cycle maintenant. Bah, au Hachem, on est passé. Et bah, au Hachem, on voit que ça comprend. C'est pas facile, mais ça comprend. Et je me rappelle, j'avais demandé au Rav Levi Asimov, quand j'avais vos premiers cycles. J'ai demandé au Rav Asimov, je lui ai dit, écoute, Lévi, c'est un ami, je lui ai dit, écoute, je leur fais le Tania, je suis en route d'Emouna, avant ça allait, mais là, je vois que ça suit pas, je comprends pas. Il m'a dit, écoute, moi, je lui ai dit, il m'a dit, y a pas de problème, tu lis, tu traduis et tu avances comme ça. C'est comme du style, bon, c'est comme ça, quoi, il comprend pas, c'est pas grave. Et là, on voit pas au Hachem, voilà. 7 ans sont passés depuis. Maintenant, pas chez Rodemouna. 7 ans, ça fait 7 ans. D'accord? On passe chez Rodemouna, et on voit là, bah, au Hachem, on comprend. C'est les parties les plus compliquées du Tania. C'est-à-dire, on voit même à quel point, des très grands secrets de la Torah. Maintenant, puisque Jacques, il doit partir, je vais raconter une histoire de Rabbi Raitel. D'accord? C'est aussi Saïloula, ce soir. En tout cas, Saïloula présumé, mais, toutes les, voilà. Saïloula fêté. Raïm, Raïm.
Il a des bougies ce soir, non? Pour les mettre des bougies.
On raconte que lorsque Rabbi Chaim Taïeb, vous savez qu'il buvait beaucoup. Pourquoi? Je vais dire pourquoi il buvait. Parce que lorsqu'il était jeune, il s'enfermait toujours dans sa chambre pour écrire des chidouches Torah. Et sa mère, elle pensait qu'il était devenu fou. Elle voyait toujours avec un cahier en train d'écrire. Sa mère, elle n'a pas trop réfléchi. Donc elle a profité une fois de l'absence de son fils. Elle a pris le cahier, avec tous les rites du Torah, elle l'a jeté au feu. Et lui, lorsqu'il est revenu, il a vu que son cahier était en train de brûler, bon, il a pu récupérer quelques feuilles, mais la majorité était brûlée. Et il en a fait une...
Dépression.
Pratiquement. Il avait des rites extraordinaires dedans. Et donc la seule façon pour lui, pour oublier ce chagrin qu'il a gardé toute sa vie... Donc, est... Il y a des gens, je m'excuse de la comparaison, mais il y a des gens qui sont en chagrin parce qu'ils ont perdu, ils voulaient se marier avec quelqu'un, ils l'ont pas eu. Là, je vous parle de quelqu'un qui a le chagrin toute sa vie parce qu'il a perdu des chidouchets Torah qu'il a écrit.
Oui, mais bon.
Toute sa vie, il était triste de ça. Il était tellement triste que la seule chose qui le calmait un peu, prenait de la boucha. Boucha, il connaît.
Ah, les chayim.
Les seuls, les chayim. Hein?
On n'a pas
eu de chayim. Ah, ouais. Il disait les chayim. Et là, lorsque la boucha calmait un peu ça. Chaim. Calmez un petit peu. Et là, il allait dans la Torah. Maintenant, les gens de la communauté, ils essayaient de le calmer un peu. Et lui, il trouvait toujours, il était très intelligent. Ils ont fait passer le mot à tous les bars du quartier de pas servir, etc. Et lui, il trouvait toujours un truc pour s'arranger, parce que sans ça, il n'arrivait pas à étudier. Sans ça, il était complètement déprimé. À cause de la Torah. Parce qu'il a perdu le chodesh Torah. Et donc, on a installé son lit au Beit HaMidrash. Il avait un lieu au Beit HaMidrash. Et donc, il disait ce qu'il fallait les chayim. Et dès qu'il devait dormir, il allait dormir. Il dormait. Après, dès qu'il décuvait, il se réveillait. Et il continuait à étudier. Il restait toujours au Beit HaMidrash. Étudier, il se levait, étudier. C'est-à-dire que juste l'alcool, c'était un moyen pour calmer son... Je ne sais pas d'ailleurs combien d'années il a vécu. Il est parti assez jeune, je crois. Alors, une fois, il y a un grand rave. Hein? Une fois, il y a un grand rav qui est venu, un rav Ashkenaz, j'ai oublié son nom, qui est venu. Et il a entendu parler qu'en Tunisie, il y a des grands tzadikim, etc., de Talmud Chachamim, bon. Alors, il arrive, il débarque au Beit HaMidrash. Hein? Ah oui, il débarque d'abord au port, etc. Et... C'est un autre, ça. Il arrive au Beit HaMidrash, donc il y a le cocher qui le rend fou déjà. Lui, il s'angoisse, il dit, mais si déjà le cocher il m'a rendu fou en Torah, qu'est-ce qu'il va au Beit HaMidrash? Il arrive au Beit HaMidrash. Et là, Rabbi Chataïb, il voit arriver. Rabbi Chataïb, il lui pose une question, il lui dit, ah, vous êtes un rave, très bien, kol hakavod, talmid chacham et tout, j'ai une question à vous poser. Alors, il lui pose une question très forte en Gemara. Alors, le rave, il dit, bon, donnez-moi un peu de temps, je vais sortir dehors pour prendre un peu d'air, et je vous ramène la réponse. Il sort dehors, il revient quelques minutes plus tard avec la réponse. Très bien. Continue à discuter, continue à la Halakha, continue à la Gemara. Après, Rabbi Chaim Taïeb, il lui pose une autre question.
93
ans. Hein?
J'ai vu 93 ans.
Ah bah, Baruch Hashem, comme quoi?
Ouais. L'alcool, hein.
Alors, c'est l'alcool d'un tzadik.
Oui, c'est vrai.
Alcool Israël. Alors, attendez, je n'ai pas fini. Alors, Rabbi Chaim Taïeb, il lui pose une autre question en Gemara. Une autre question très puissante.
Et le Rav, comme ça, il est éveillé, il est éteint. Je sortais dehors, prendre un peu d'air, je vais réfléchir et je vous ramène la réponse. Et il lui ramène encore une deuxième fois une bonne réponse. Alors, troisième fois, comme plus tard, Bechata, il lui pose une autre question dans la Gemara, très forte. Mais il lui dit, pour celle-là, ne va pas demander dehors à Eliyahu Navi parce qu'il ne connaît pas la réponse à cette question. C'est-à-dire, on parle de Tzadikim qui allait voir Eliyahu Navi, il dit, mais celle-là ne lui demande pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Hein? Bien sûr, extraordinaire. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu vois un tzaddik comme ça, que des générations après on parle encore de lui, c'est que
c'est
quelque chose. Un tzaddik extraordinaire. Bon, en tout cas, on va dire les chaim.
Pourquoi l'omet,
ah oui, prends l'appel l'omet. Parce que lorsqu'il a quitté ce monde, le gabaï, celui qui l'a enterré, qui a posé la pierre, il a fait un rêve. Parce qu'apparemment, à l'époque, on posait la pierre le jour même. Donc, il a fait un rêve. Et Rabbi Rata est venu le voir dans le rêve, il a dit, pourquoi t'as écrit que je suis mort? Je suis pas mort.
Parce
qu'il s'écrit Po Nitman ici, etc. Bon, si j'y, etc. Je suis pas mort. Lui, il se réveille, il sait pas quoi faire.
L'homme.
Non.
On dit qu'il avait perdu la vue.
Alors, ah bon, ça c'est. Moi j'ai pas lu
la pierre par terre.
Oui, et bon, pareil, il trouve la pierre par terre, etc. Alors, bon, il sait pas quoi faire. Deuxième livre, on fait le même rêve. Rabbi Chaïtaï qui lui dit, pourquoi t'as écrit je suis mort, je suis pas mort?
Ah, deux fois le même.
Deux fois, même, je crois même qu'il dit plus que deux fois. À la fin, voir le rave, il sait pas quoi faire. Et on peut pas enlever la pierre tombale. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont décidé de rajouter la mention, le Rabbi Chaïtaï, l'omet, il est pas mort. Après, les rêves sont arrêtés. Depuis, c'est resté comme ça, Rabbi Chaïtaï, l'omet.
Incroyable.
Extraordinaire. Bon.
Je pense que les arabes sont des gentils qui touchent pas au cimetière et aux choses comme ça, c'est pas l'endroit où il est, il a été déplacé. Parce qu'avant, il y avait le cimetière tunisien, il était au centre-ville. Il était au centre de Tunis, et le bordel vient un petit peu à l'extérieur. Oui. Il était au centre de la ville, et en fait, pour les gens qui pensent que pour les musulmans, ils sont respectueux des tombes, ils touchent pas et tout, non, pas du tout.
Okay.
Ils ont complètement profané le cimetière, soit avec des bidons, ils ont tout rasé. Ils ont réussi à. Malgré le fait que les juifs avaient acheté le terrain, il leur appartenait. Et ils ont réussi à déplacer des tombes après sur.
Ça, c'était un très très vieux cimetière,
1835. Oui, oui,
oui. C'était
un tout petit peu. Bon. En tout cas, on voit à quel point c'est des grands tzadikim. Allez, Chaim, Chaim. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la dans un Fabringen de Yutet qui se lève, Tafshin Yutet, sans faire de jeu de mots. Yutet qui se lève, 5719. Ça veut dire 1900, fin 1958. Le rabbi, il a posé une question.
Deux fois 19.
Deux, hein? Deux fois 19, exactement. D'abord le Chaim, Chaim. Le rabbi, il a posé une question. Il y a. Yutet, Tafshin. 60 ans. Un peu plus de 60 ans. Le rabbi, il a posé une question. Il a dit, on sait très bien. Écoutez la question, c'est une question intéressante. On sait très bien que le Shabbat et les fêtes sont célébrés dans chaque endroit par rapport au timing de l'endroit. Tout à l'heure, je souhaitais à quelqu'un Good Yom Tov. Parce que nous, on était déjà dans le 19 qui se lève. Lui, il était aux États-Unis. Il m'a dit, il fait encore jour chez nous. Bien que le rabbi dit, écoute, j'aime toi, j'ai 18 qui se lève, mais bon. Alors, le rabbi pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Prenons un exemple dans le Shabbat. Le Shabbat qui va commencer chez nous à 16h35. Et à New York, il va commencer 6 heures plus tard. Mais le vrai Shabbat, il a commencé où dans le ciel? Il a commencé à quel moment?
C'est vrai.
Dieu, il fait quand Shabbat?
C'est vrai.
Ah. Parce que si tu prends depuis le début en Australie,
eh oui, c'est, y a un décalage.
Jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un Shabbat qui dure deux jours.
C'est un jour avant.
Ah oui. Donc
il y a deux jours.
Un jour avant.
Alors comment ça marche?
C'est 12 heures.
Pourquoi le rabbi il a parlé de ça? Parce que quand le rabbi est en train de parler, il avait déjà reçu les rapports du des Fabringen, de Yutet Kislev qui se passait déjà à Kfar Chabad, à Yerushalayim en Israël. Alors qu'à New York, c'était pas encore Yutet Kislev. Donc le rabbi il a posé la question. Il a dit comment ça marche? On reçoit des rapports Yutet Kislev et nous on n'est pas encore Yutet Kislev. Dans le ciel, c'est quand Yutet qui se lève? Il y a bien un moment dans lequel c'est Yutet qui se lève. Normalement, on aurait dû trouver un moment dans lequel on dit ça, c'est le moment où ça se passe dans le ciel. Et par rapport à ça, dans le monde, on s'adapte.
C'est là où il a vécu en principe.
Alors, non, mais surtout pour Shabbat, pour Yom Tov. Tu dis par exemple Yom Tov, tu dis que t'as un Yom Tov qui va rappeler le jour où on est sorti d'Égypte. Ça se passe quand dans le ciel? Ça se passe 6 heures plus tôt, 6 heures plus tard. Dieu, il fait ça quand dans le ciel? C'est quoi la réponse? L'Admor Hazaken pose cette question dans son Shulchan Aruch. Dans Mahadura Batra, dans la deuxième version de son Shulchan Aruch, là-bas dans le quatrième chapitre, je crois, enfin dans un des quatre premiers chapitres, l'Admor Hazaken pose cette question. En quelques lignes, il dit comment c'est possible. Et le Rabbi, dans ce Farangan, il dit la réponse de l'Admor Hazaken, mais avec des mots plus de Chassidut. Il dit comme ça. Il dit en fait que dans chaque endroit, la Hamshacha Lemata, ça veut dire le dévoilement divin qui arrive en bas, arrive dans chaque endroit selon les capacités et selon les spécificités de l'endroit. C'est-à-dire que si maintenant dans cet endroit le jour est rentré à telle heure, donc ça va rentrer à telle heure. J'ai dit, mais comment ça marche? Comment c'est en haut? Il dit, c'est très simple. C'est qu'en haut, on est les mâles à Meazman. On est plus haut que le temps. Donc en haut, il n'y a pas de notion de timing de 14h30 et 16h38 et 15h. Il n'y a pas ces notions. En haut, c'est les mâles à Meazman. C'est-à-dire où, à quel moment la différence va exister? Lorsque cette notion qui est intemporelle en vérité, va descendre dans le monde, là et qu'elle va devoir s'adapter dans le monde. Alors là, selon l'endroit et le climat dans lequel elle va s'installer, eh ben elle va arriver à un moment différent. Ah, c'est une idée que le rabbi expliquait dans ce Farangan. Ça veut dire que de là, il veut expliquer qu'en vérité, l'idée de Yutet qui se lève, nous maintenant, on fait lier ça à un jour particulier qui a commencé ce soir et qui va finir demain soir, dans deux jours. Bon, voilà, c'est un jour spécifique. Mais il faut savoir qu'en vérité, la notion de Yutet qui se lève, c'est une notion qui ne s'arrête jamais, parce que dans l'absolu, c'est une notion intemporelle. Or, si dans le ciel c'est intemporel, ça ne s'arrête jamais. Et il explique, c'est très fort l'idée qu'il explique, comme ça, avec ça le rabbi. Il dit qu'en vérité, toutes nos fêtes sont intemporelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est Pessah.
Maintenant c'est Shavuot. Maintenant c'est Purim. Maintenant c'est Kippour. Maintenant c'est Rosh Hashanah. Maintenant c'est Shabbat. Maintenant c'est tout.
Donc il n'y a qu'un seul moment.
Alors comment ça va? Parce que c'est intemporel. C'est pas limité au temps. C'est pas limité au temps. Donc c'est tout le temps et c'est jamais. C'est tout le temps. Seulement c'est quoi le pshat? C'est que Dieu dans l'année, il nous donne, comme nous on est des êtres humains, qu'on a besoin d'avoir des dates spécifiques, concrètes. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous donne des dates dans l'année dans lesquelles il dit, ce jour-là, vous allez vous concentrer sur une idée. Par exemple, aujourd'hui, on va se concentrer sur une tête qui se lève. Et en se concentrant sur aujourd'hui sur une tête qui se lève, on prend la force pour toute l'année pour une tête qui se lève. Ça veut dire aujourd'hui, c'est quoi le message de ce soir maintenant? C'est d'intensifier l'étude de la chassidoute et le chemin de la chassidoute. Maintenant, à l'instant où je vous parle, on prend l'énergie pour toute l'année. Ouais. Pour étudier la chassidoute et pour le chemin de la chassidoute. Pour les deux. Et pareil, Hanouka bientôt, on prend de la lumière pour toute l'année. C'est vrai qu'on a limité ça à 8 jours spécifiques dans le calendrier. Mais dans l'absolu, c'est intemporel. C'est intemporel. Et là-bas, le Rabbi dit comme ça. Dans ce Farbringen, Rabbi l'a dit la chose suivante. Il dit qu'on doit savoir que le Farbringen de l'étude qui se lève, vous devez savoir que celui qui est venu ce soir dans ce Farbringen, il a un très grand mérite. Je vais vous dire pourquoi. Il a raconté dans ce Farbringen quelque chose qu'il a entendu au nom de son beau-père, qui a dit ça en Pologne, avant même qu'il arrive à New York. Il a dit comme ça. Il a ramené un dicton de l'Admor HaZaken qui dit « Mi shishtatev besimchati ». Écoutez bien, Joseph, c'est extraordinaire ce qu'on va dire ici. « Celui qui va participer à ma joie, otsi oto, je le ferai sortir. » Et là, il y a trois versions. Mina metzar à la merchav, de l'étroitesse vers la largesse. Mina geshem à la ruach, du matériel vers le spirituel. Mina geinom, je le ferai sortir du geinom. Trois choses. Alors, Rabbi dit, c'est quoi la différence entre les trois niveaux? Parce que, en fait, si vous voulez, c'est trois versions sur la même phrase. Morazakeni dit, celui qui participe à ma simcha, donc maintenant on est venu, voilà, on est venu. Celui qui participe à ma simcha, je le ferai sortir de l'étroitesse vers la largesse, du matériel vers le spirituel, et je le ferai sortir du geinom. Quoi ça correspond? Ça correspond à trois niveaux de gens. Il y a des gens qui sont déjà à un très haut niveau. Et que pour eux, leur seul problème, c'est qu'ils sont un peu dans l'étroitesse. Donc on dit, bon, toi, on va quitter ton étroitesse, tu vas aller vers la largesse. Mais le gars, il est déjà dans la spiritualité. Dans la spiritualité même, il est un peu dans l'étroitesse. On dit, bon, t'auras la largesse. On va donner un appartement plus grand, très spirituel. Après, t'as un autre niveau. T'as une personne qui est un peu plus bas, qui a la tête dans le matériel. C'est pas vraiment, il fait pas des avirotes, mais il a la tête dans le matériel, dans la matérialité, dans les voitures, dans les téléphones, dans les maisons, dans les trucs, etc.
Je me sens visé.
Alors celui-là on dit, c'est pas sourd.
C'est pas sourd,
rien qui t'interdit. D'accord. Mais c'est inadapté. Alors on te dit, celui qui participe à ma simcha, je le ferai sortir, min ha-geshem el haruach, du spirituel vers le matériel. Il y a une troisième version. Il dit non. Je le ferai sortir même du Geinom. C'est-à-dire que tu as un juif qui est arrivé à un matzav grave. D'accord? Il est arrivé à un matzav, mamash, une situation très très grave. Il est Geinom. Et dit l'Admor HaZaken, je le ferai sortir du Geinom. C'est une phrase qui n'est pas très connue, mais c'est le Rabbi qui la cite. Parce que c'est connu ce qu'on dit chez les Chassidim de Breslev. On dit que Rabbi Nachman dit que celui qui fait Tikkun HaKlali, je le tirerai par les péotes, etc. Mais on ne savait pas que l'Admor HaZaken aussi avait une phrase comme ça. Hein?
Pourquoi
Tikkun? C'est un texte spécial. Il dit que celui qui lit, je viendrai le chercher au Geinom, je le tirerai par les péotes. D'accord?
C'est connu, hein?
Et là, on a une phrase de l'Admor HaZaken. Maintenant, ça coûte rien. Qu'est-ce que ça nous coûte de venir à une Timra?
Il n'a jamais croisé Brestel.
Ouais. On a vu ensemble.
Hein? Qu'est-ce que ça nous coûte? C'est rien du tout. Venir à Farbringen, ça nous coûte quoi? Venir mercredi soir à la fête. Vous savez, c'est quoi cette histoire de la fête qui est à Paris? Ça fait des années qu'on n'arrête pas de changer de salle.
Il n'y a
pas de place. L'année dernière, il y avait 500 personnes qui attendaient dehors. On était 1800 personnes dans la salle. Vous vous rappelez celui qui était là?
Ton père était dehors.
Ah oui, c'est. Il y avait 500 personnes qui attendaient dehors. Et plus encore, parce qu'il y avait des gens qui sont rentrés chez eux. Je crois que mon père, papa, t'as pu rentrer à la fin? Il n'a même pas pu rentrer à la fin. Non, il n'est pas rentré.
Ceux qui ne sont pas rentrés, ils ne
pas. 1800 places. Il y avait 1800 places. Alors, le Rav Azimov, il a dit l'année dernière. Il a dit,
Doc.
On va mettre les fonds qu'il faut. Et il faut que ce soit plus grand. Parce que quand tu fais une salle, tu loues une salle, elle est déjà prête. Bon, tu mets des sièges, tu mets un programme, et la salle est déjà prête. Là, ils ont pris les docks. Maintenant, les docks, c'est une salle, ça coûte de l'argent. Il faut la décorer, il faut la préparer, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même budget. Là, ils sont partis. C'est la première année, là. Et je me rappelle, Rav Azimov, Zichrono Livracha, et une fois une année, ça s'était passé comme ça. on était au cirque d'hiver, et il y a des gens qui avaient dû rester dehors. Et Rav Asimov, il était très énervé. Que des gens, ils ont voulu venir avec tête qui se lève. Ils sont venus, ils sont restés dehors. Il était très énervé. Il était frustré. Et il a dit au staff, etc. Il a dit, voilà, il leur a dit, enfin, il nous a dit à tous, il y avait une réunion juste après, il a dit, il faut pas que ça arrive. Et on avait essayé, mais après, ça coûte des sous.
Tu dis, un grand écran d'or.
Hein, quoi ?
Un grand écran d'or.
Non, Rav Asimov voulait pas. Il a dit, quelqu'un qui vient au tête qui se lève, il faut qu'il y ait de la place pour lui. Il y a des solutions. C'est quoi les solutions ? C'est de faire l'entrée payante. Ah. Quand tu fais l'entrée payante, tu payes la salle que tu veux. Il n'y a pas de problème, tu fais l'entrée payante.
Tu peux essayer le Stade de France.
Là. Peut-être que tu n'auras pas
Non, mais Rav Asimov ne voulait pas. Il a dit on veut l'entrée gratuite. Ah, oui. On ne veut pas qu'il y ait un juif, peut-être, qui va se dire j'ai ah, l'entrée payante, je ne vais pas venir. Il n'est pas. Hein c'est un moyen de ah, viens, tu me donnes ton argent, je vais leur donner. Il n'y a pas de problème, ils sont très contents. Viens-moi.
On leur donne, mais on peut leur donner plus.
Donne.
D'autres moyens.
Donne, ils ont besoin. C'est des gros sous cette année. Bah, au prochain. Mais Rav Asimov voulait pas qu'on demande l'argent.
De Paris, c'est déjà.
Les dogs de... Il voulait pas qu'on demande l'argent.
Bien.
C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est important. Il voulait que chaque juif participe à la Simcha de la Mourazaken. Mamash. Qui est pas une excuse. Maintenant, même avant, on avait une excuse, c'est le parking. Maintenant, même le parking, il n'y a pas. Là-bas, tu vas au dog, tu peux te garer, tu peux garer 100 000 personnes là-bas, pas de problème. C'est-à-dire que Mamash, cette année.
Alors, rendez-vous mercredi soir.
Voilà, rendez-vous mercredi soir.
On compte sur vous.
Yves, c'est un vétéran.
Moi, je suis chaque année.
Comment il est
hein non, je vous explique. En vérité, je voulais faire le Fabringen à la base demain soir. Mais je me suis dit, si les Corotaniers lundi soir, demain c'est le Fabringen, ils iront pas mercredi soir. Donc on a mis le Fabringen ce soir. Comme ça, demain soir, vous pouvez sortir avec madame si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais mercredi soir, vous devez venir avec Tegisler. Il y en a entre temps qui vont aller à chez Rabbi Chaim Taïeb, pas de problème. Mais il sera de retour pour. Il sera de retour pour être qui se lève.
Bien sûr.
Alors Chaim, Chaim.
Ça va ? Il paraît bien.
Répétez. On va chanter un nigoun de la Mourazaken. Kele yada veodega loga yaromemega 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 kele yada veodega Mega Kele Yada Veodeka Elayka Arom Mega Kele Yada Veodeka Mega Kele Yada Il y a un nigoun que chez les chassidim, on chante qu'à des occasions très spéciales. C'est le nigoun des Arba Bavot. C'est un nigoun qu'on chante ceux qui ont participé à des mariages Chabad et pas que d'ailleurs. Ils ont dû entendre ce nigoun et on le chante pas n'importe quand. C'est-à-dire si vous m'aurez demandé de chanter ce nigoun ce matin, je vous aurais dit je peux pas le chanter, j'ai pas le droit de le chanter.
Interdit.
C'est ce que c'est un nigoun qu'on chante qu'à des moments particuliers. C'est un nigoun qui touche jusqu'au monde de Hatzilut, très très haut. On chante pas ce nigoun. ce nigoun était composé par l'Admor HaZaken. On le chante à des moments très spéciaux. Et un des moments dans lesquels on chante ce nigoun, c'est une tête qui se lève. Donc, mais avant de chanter ce nigoun, d'abord on chante un nigoun achana. Un autre nigoun de préparation. Parce qu'on ne chante pas ça comme ça. C'est un moment très spécial dans lequel la neshama elle monte de niveau en niveau. C'est vraiment un nigoun très particulier qu'on ne chante pas n'importe comment. Donc on va d'abord chanter le nigoun hachana. Maintenant commence le nigoun de Arba Avon.
Ya, yeah. aïe 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 la 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 aïe aïe la 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 aïe 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 la la aïe 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 aïe
Chaim.
On t'entend pas, David, ici. David, plus fort.
Ceux qui ont vu la vidéo de Vive la Torah, c'est Motsei Shabbat.
Shalom, shalom.
Ils ont vu l'histoire que Rabbi rapporte sur
Comment la Mourazaken
double.
Ah, double. L'histoire de ce ministre, de l'aide du ministre qui a dit à Mourazaken, il lui a dit, expliquez-moi ce que ça veut dire. Dans la Torah, il y a marqué Ayeka. Dieu lui demanda à Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Alors après, donc l'histoire, vous connaissez l'histoire, vous avez il rapporte que donc Adam Arishon, il lui a dit l'explication de Rachid. Que Dieu, il a parlé à Adam Arishon, Ayeka, où tu te trouves, où tu es. Il venait de fauter, et donc Dieu, il voulait rentrer avec lui par des paroles, comme ça, lui faire parler. Et l'homme, il lui a dit, non, je vais écouter ce que le rabbi dit, ce que l'Admor HaZaken dit. Votre explication à vous. Là, l'Admor HaZaken, il a dit, quand un homme, il avait un certain âge, et il avait l'âge de cet homme-là, il avait cet âge-là, alors à ce moment-là, Dieu lui dit, allez, gars, où tu te trouves. Le rabbi explique comment, là-bas dans la Sira, justement, il explique ce sujet que finalement Dieu il dit à un être humain, il lui dit Ayeka, où tu te trouves. Ça veut dire en quelque sorte où tu en es dans ta vie, où tu en es dans par rapport à ce que tu dois faire sur terre, pourquoi ta neshama est envoyée sur terre. Le rabbi explique un sujet intéressant. Il dit qu'en réalité, il y a tel qui se lève. Le Admour HaZaken, en fait, quand il est allé en prison, non seulement ça ne le dérangeait pas, mais en fait, il était content de faire Misrouk Nefesh. Et quand cet homme, il lui a dit, quand l'Admour HaZaken, il a donné cette explication à cet homme, il lui a dit, Ayeka, ça veut dire en fait, Dieu il te dit où tu te trouves, où tu te demandes où tu en es dans ta vie, à ce moment-là, le rabbi explique, en réalité, ça a donné la force à l'Admour HaZaken de supporter, en quelque sorte, de comprendre qu'il devait quand même rester sur terre. Parce que pour lui, l'Admour HaZaken, peut-être qu'il s'est donné Misrouk Nefesh sur la Torah Tachasidou. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Admour HaZaken, on peut dire, il avait un certain plaisir, tellement il sentait que c'était vraiment Misrouk Nefesh, il donnait son âme. Et grâce à ça que l'homme il lui a dit ça, il lui a dit Ayeka, et Admour HaZaken lui a donné explication. L'Admour HaZaken il a pu supporter, mais il a pu en quelque sorte comprendre qu'il devait rester sur terre, qu'il devait continuer à diffuser la chassidoute, etc. Donc, un mot sur cette sécha que le rabbi l'a dit sur ce mot-là. Peut-être qu'il se lève, c'est sûr, c'est un grand jour que, comme on dit, que on cherchera la chassidoute, et les archéas à chassidoute. Peut-être on va dire que ce sujet-là, d'archéas à chassidoute, c'est un sujet aussi important. Étudier la chassidoute, c'est sûr, c'est quelque chose de très, très, très important. D'arca chassidut, ça veut dire vivre avec la chassidut, c'est dire vraiment vivre au quotidien, ça veut dire baser sa vie sur les enseignements de la chassidut, c'est à dire baser son quotidien sur un mot d'un mamar, sur un mot qu'on a étudié, sur un mot du rabbi, un mot. Ça, c'est quelque chose que ça demande un travail, une avoda. Chacun il peut faire ce travail, que quand il va étudier un mot de chassidut, non seulement ça va l'éclairer, mais en plus, et ça va le changer dans sa vie au quotidien, puisque dans ce plus petit détail, dans sa vie vraiment au quotidien. Je ne pas que mon fils, justement, a avancé dans ce chemin.
Alors,
nous, c'est du renfort qui est arrivé là. Ah, La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
On aurait mis deux tables de plus, on aurait plus de Papa. Nathan. Ça va? Oui, peut-être qu'il se lève. Papa.
C'est un peu silencieux.
Hein? Les jeunes, ils dorment là. Ils sont sur leur téléphone. Hein? Hein? La grève vous a fatigué?
Non, parce que c'est peut-être assez. C'est
ouais, ouais.
Ancien. C'était pas supprimé, je l'ai retiré. On entendait mon des bourgeois, il est stocké où. Moi je l'ai retiré, je l'ai retrouvé.
David, il a raconté une histoire. Chaim, Chaim. Il a raconté l'histoire de l'Admour Hazaken. Que l'Admour Hazaken, justement, tu as dit qu'il a, il a témoigné après que si ce ministre n'était pas venu, sa neshama aurait pu partir à ce moment-là. Et que ça a été un rappel pour lui-même. Claude Anefesh. Sur ça, on raconte une autre histoire. Qu'une fois, l'Admour Hazaken, il était en train d'étudier la Torah avec Rabbi Avraham Amalach. C'était qui Rabbi Avraham Amalach? C'était le fils du Magui de Meziritch. Il était tellement détaché de la matière qu'on l'appelait Rabbi Avraham l'ange. C'est une personne qui s'est mariée, qui a eu un enfant, etc. Mais c'est une personne, on dit que même la forme d'une pièce, il ne connaissait pas. Si on lui donnait une pièce, on lui donnait la monnaie. Il était incapable de dire c'est quoi la pièce, c'est quoi la monnaie. C'est complètement ailleurs. Complètement à l'est.
Hein? Allez, 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 allez,
d'accord. La Shrina est à l'ouest, ok. Il était complètement mamache dans les inanimes. Lorsque l'Admour Hazaken est venu chez le Magid Meziritch, on a raconté une fois l'histoire, comment il est venu, avec l'histoire avec l'écharpe et tout. Lorsque l'Admour Hazaken est arrivé chez le Magid Meziritch lui a proposé un deal. Il a dit, écoute, toi tu connais bien la Gemara. Mon fils, il connaît bien la profondeur de la Torah. Alors on va faire un deal. C'est quoi le deal qu'on va faire? C'est que vous allez faire une kviout, vous allez faire une chavruta, un binôme, tous les jours avec mon fils, un certain temps, une heure, deux heures. La moitié du temps, c'est toi qui lui enseigneras la Gemara, Midrashim, Chaz, etc. L'autre moitié du temps, c'est lui qui t'enseignera. Si mes souvenirs sont bons, c'était le contraire. C'était que d'abord, la première moitié, c'était la profondeur de la Torah, et la deuxième moitié, c'était la Gemara. Et l'Admour Hazaken, il raconte que tellement il avait envie que l'étude continue avec Rabbi Avraham Amalach, qu'il tournait les aiguilles de la montre. C'est-à-dire, dès qu'il voyait que c'était bien le jour, il tournait les aiguilles de la montre incognito, et pour que ça continue. Et il a dit sur ça, il a témoigné que c'est écrit dans Mishle Maim Gnovim Imtekou, que des eaux volées sont douces. C'est-à-dire, il a raconté, il a dit, les minutes que j'avais pas volé, entre guillemets, bon, on a étudié. Mais après, les minutes que je volais, le temps qu'il chope, il dit, mais c'est bizarre. Et ces minutes-là, elles m'étaient très très chères. Et il raconte, l'Admor HaZaken, qu'une fois, il avait tourné la montre, je sais pas combien de fois, et ils arrêtaient pas de monter dans les tours. Et ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ils étaient en train de quitter la matière. Et l'Admor HaZaken, il raconte, il dit, à un moment, j'ai senti que nos deux âmes étaient en train de quitter ce monde. Texto, c'est-à-dire, c'est pas Stam la blague, c'est de... L'Aneshama est en train de comme Nadav Aviou. L'Aneshama est en train de quitter ce monde. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti prendre un bagel avec du beurre.
Ah, ouais, c'est la plombée.
Et ça, c'était la grande tava, tu vois, parce que normalement, prends un bagel tout court, t'as faim, tu manges un bagel. C'est pas le beurre qui va te nourrir. Le beurre, c'est pour que le bagel soit meilleur. Mais ce qui va te nourrir, le féculent, enfin, ce qui va te nourrir, c'est le bagel, c'est pas le beurre. Donc il a dit, j'ai préparé un bagel avec du beurre.
Il n'y avait pas de charcuterie. Hein.
Et ça l'a calmé. Ça l'a calmé, c'est refaire descendre sur terre. C'est quoi le pshat? C'est on voit mamash comment l'Admor HaZaken, la neshama l'Admor HaZaken, elle est ailleurs. Vous savez que dans l'Admor HaZaken, quand il faisait la tefila, en général il écoutait les kaddish qui douchaient par roue au Beit HaMidrash, après il l'avait pris dans sa chambre. Donc quand il disait sa mida, cette fille-là, en général, toute cette fille-là qui pouvait durer des fois des heures, il était ailleurs, complètement ailleurs. Il était tellement ailleurs que parfois, elle était tellement béite palou, tellement il bougeait dans tous les sens que sa tête se cognait sur les murs, sur les meubles, etc. Dans la chambre où il priait, le Admor HaZaken, on a installé des coussins partout dans les murs. C'est sérieux ce que je vous dis. Pour amortir les coups, parce que maintenant, la vérité, c'est que nous, quand on lit le Tanya, on n'a pas du tout l'impression que le Admor HaZaken est comme ça. Parce que le Tanya, le Shurano, le Admor HaZaken, c'est très structuré, c'est très carré. Donc on a du mal à se dire, c'est pas, celui qui a écrit ce livre, c'est une personne qui est très carré. C'est une personne qui a aucun dépassement. C'est un Algérien, comment? Non, sérieusement.
Pour fils, il n'y en a pas.
Si, bien sûr qu'il y en a. Votre tête est algérienne. Votre tête est algérienne. Alors, donc, quand tu lis le Tanya, t'as pas l'impression. Et pourtant, il y a quelques endroits dans le Tanya où on voit que l'Admor HaZaken, comme ça, il part en vrille. Tu sens qu'il se retient. Et bien, chaque fois que l'Admor HaZaken faisait la tefila, sa neshama, elle partait dans tous les sens. Mamash. Et on voit que cette histoire, que, et avec ça, l'Admor HaZaken faisait un effort à chaque fois pour revenir sur la matière. On a vu ça chez beaucoup de Rebbeim. Vous savez, on dit par exemple chez les Rebbeim, on l'a vu ça surtout chez notre Rabbi, lorsque Rabbi disait un Mahamar, c'est un moment où toute l'assemblée se lève, et que le Rabbi qui reste assis, qui a les yeux fermés, enfin c'est une autre dimension. Et le Rabbi, en général, quand il disait Mahamar, je crois, il avait toujours une serviette dans la main. Serviette, il attrapait la nappe, il avait une serviette. Pour rester accroché à la matière. Kishuto.
Un mouchoir, oui.
En général, c'est un mouchoir dans la main. Pour rester accroché à la matière. Il est dans une autre dimension. On sait par exemple que ça arrivait plusieurs fois que le rabbi faisait le mamar, il y avait des chosrim qui étaient là, des gens qui étaient là, qui écoutaient, et qui devaient répéter après. Répéter pour que ce soit transcrit. Et après on donnait au rabbi à corriger, dans la majorité des cas. Et ça arrivait plusieurs fois qu'on a donné au rabbi à corriger, et le rabbi a dit, mais c'est moi qui ai dit ça. C'est jamais arrivé sur une sikha, ça, que le rabbi dit, c'est moi qui ai dit ça. Alors, le rabbi sait ce qu'il a dit. Sur un mamar, c'est plusieurs fois arrivé. C'est-à-dire que le rabbi l'a amené, il posait une question sur ce qu'il dit. Il dit, mais c'est moi qui ai dit ça, mais c'est pas. Et on lui montrait, on réécoutait l'enregistrement. Le rabbi l'a dit ça. Il a dit, bon, alors certainement, il faisait comprendre qu'on a dû lui dire. C'est-à-dire quand le rabbi faisait le mahamar, il était connecté direct. Et on l'a vu, ça, vous savez quand on l'a vu? On l'a vu lorsque le rabbi était malade. À la fin des années 78. Lorsque le rabbi était malade. Et donc le rabbi ne pouvait pas faire le fabringen pendant Shabbat. Parce que ça demandait beaucoup d'énergie, il n'y a pas de micro, etc. Donc l'arrangement qui avait été fait à cette époque-là, surtout pendant l'hiver, c'est que le rabbi faisait le fabringen, Motsé Shabbat. Là, il y avait un micro. Alors au début, il faisait le mamarim dans sa chambre, dans son bureau, et c'était retransmis, en bas au 770. Et après, c'était en bas, mais il y avait un moniteur qui était connecté à son cœur. Il y avait le cardiologue qui était tout le temps au bureau, et il suivait. C'était sans fil. C'était pour cette époque-là, c'était un appareil qui valait très très cher. On l'a fait amener pour ça. Et donc, c'est connecté sans fil avec le bureau du rabbi. C'est à quelques dizaines de mètres, mais connecté sans fil. Et c'est le cardiologue du Rabbi qui raconte, le docteur Weiss. Il raconte, il dit que bon, donc son métier, c'était donc, enfin son rôle, c'était de surveiller. Bon, on avait dit au Rabbi de rester un certain temps, le Rabbi a dépassé le temps, bon, etc. Ça, c'est bon. Et il a dit, il raconte, il dit que le cœur du Rabbi, pendant toute la Sira, c'est un cœur régulier, mais d'une personne qui a le cœur qui souffre. C'est-à-dire un cœur comme ça qui souffre. Il dit, arrivé un moment, lui, il savait pas ce qu'il faisait. Lui, il était dans le bureau, il suivait juste le moniteur. Il va au moins dans le moniteur. Donc lui, il descend en courant, c'est 27. Il est sûr que voilà, c'est fini. D'accord, la chemise mort. Et il descend, il voit tous les chassidim, ils sont là, debout, et leur avis dit un mamar.
Donc le moniteur, il dit que non.
Il retourne, il voit le moniteur, tout plat. Leur avis termine le mamar, le moniteur reprend comme ça. C'est un cardiologue qui te raconte, c'est pas une histoire que t'as lu dans un livre, ou que c'est un plaisantin qui t'a raconté, c'est une histoire sérieuse. C'est-à-dire que lorsque le rabbi dit un mama, une autre dimension. Et il fallait cette serviette s'accrocher pour avoir un objet matériel, pour ne pas décoller. Ça nous donne une idée un petit peu pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on te dit que l'Admor Hazaken, il a dû manger un bagel avec du beurre. Ouais. Bon, nous, si vous voulez, l'équivalent de bagel avec du beurre, nous on aurait dit une entrecôte, enfin je sais pas ce qu'on. il faut une tava quoi, il y a quelque chose de matériel. Hein? Lui, c'est un bagel avec du beurre. Bagel avec du beurre, c'était. La brioute. Un objet. Bon, le Chaim. On a ici beaucoup d'invités, moi j'ai assez parlé, ça fait deux heures que je parle, il faut que les invités parlent maintenant. Hein? Aïe, là, là, écoutez, je retiens personne, hein. Nous on continue, mais. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Aïe, la la la, la 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 la. Aïe la la la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la. La la la, aïe aïe aïe, la 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 la. Alors, passe nous voir. Aïe aïe aïe, la 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 la. Ah ah, je transmets. Ah ah, aïe aïe aïe, la 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 la. La 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 la